Je pense avant de commencer la prédication, j'aimerais bien m'adresser à celles et à ceux qui souffrent. C'est particulièrement touchant, je trouve, de pouvoir parler ouvertement de nos souffrances dans l'Église. Un frère, cette semaine, il a partagé Philippiens 4, 6, qui parle d'être reconnaissant au milieu de nos souffrances. Et je trouve que c'est beau que notre sœur puisse danser alors que son mari ne peut pas danser. Et je trouve que c'est beau qu'elle puisse voir que Christ est quand même fort, qu'il est son sauveur, son Seigneur. Et je pense qu'on oublie parfois d'être reconnaissant, d'avoir les corps qui bougent. J'oublie que je peux marcher actuellement. J'oublie que j'ai la parole qui peut exprimer la parole de Dieu. Et donc, j'aimerais prier encore pour celles et ceux qui souffrent parce que j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer Eric au téléphone. J'ai pu voir Christophe hier. J'ai pu de temps en temps voir Loïc. C'est une grâce dans mon ministère de pouvoir accompagner ces personnes. Mais ils sont pour nous en fait des exemples et ils m'encouragent. Donc j'aimerais juste prendre un temps pour prier pour eux avant de passer sur un autre sujet complètement différent. Seigneur, merci parce que tu nous donnes des corps qui fonctionnent. Merci parce que tu nous aimes et c'est une grâce de pouvoir marcher, de pouvoir parler, de pouvoir voir, de pouvoir danser, de pouvoir te louer. Seigneur, nous voulons nous remettre à toi et te demander de soutenir celles et ceux qui souffrent dans cette assemblée. Les noms qu'on a partagés et les noms qui sont restés discrets. Père, viens par ton Saint-Esprit les accompagner. Et nous te remercions parce que leur confiance en toi est un exemple pour nous. Amen. Mon introduction a été complètement différente. En fait, je voulais vous demander, ça fait 2 mois que Charlotte et moi sommes dans l'église, parmi vous, et je voulais vous demander, est-ce que vous me supportez toujours? Parce que quand j'étais adolescent, j'étais, et je vais le dire, j'étais insupportable. Mes parents m'ont trouvé tellement difficile. Vous pensez que non, mais Charlotte peut témoigner de la part de mes parents. Et mes parents étaient là la semaine dernière, et je pense que s'ils étaient là cette semaine, ils pourraient vous dire, ouais, j'étais vraiment insupportable. Mais du coup, si vous ne me trouvez pas insupportable, peut-être je n'ai pas besoin de partager le texte avec vous ce matin sur lequel on va découvrir. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Colossiens 3. Colossiens 3, versets 12 à 17. Et je lis dans la Bible de Semer qui prend une traduction plus dynamique, moins littérale, mais pour moi garde le sens du texte. Donc Colossiens 3, versets 12 à 17. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessous tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir. les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez faire ou dire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu, le Père, par lui. Amen. L'unité de la famille de Dieu était une aspiration constante chez l'apôtre Paul. Et nous constatons son souci d'unité dans les lettres, dans d'autres lettres qu'il a écrites, comme la lettre aux Romains, à Galates et à l'église de Colosse. Dans chacune de ces lettres, une phrase similaire revient souvent. Et nous pouvons lire dans le verset qui précède notre texte, c'est le verset 11, et je l'ai cité dans la dernière prédication. Il n'y a plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre circoncis et incirconcis, entre barbares et étrangers, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est en tout, en tous et en tout. Dans ce verset, Paul emploie cette formule pour conclure une exhortation et pour introduire la suivante. Effectivement, dans les versets qui précèdent notre texte, Paul a montré que notre identité est en Christ, notre nouvelle identité est en lui seul, et que nos anciennes croyances, nos péchés, nos cultures différentes, notre passé et notre présent n'ont plus leur emprise sur notre identité. Nous sommes une nouvelle identité en Christ. Nous sommes donc unis ensemble sous Jésus-Christ, le chef de l'Église. Mais ce verset 11 s'ouvre aussi à l'exhortation suivante, celle où Paul nous montre que notre union en Jésus-Christ ne s'arrête pas à des simples faits spirituels. Mais notre union à Jésus-Christ a des implications réelles et concrètes pour notre vie quotidienne, pour notre vie communautaire entre nous les uns les autres. Et si nous sommes unis à Christ, Paul nous invite désormais à se supporter les uns les autres. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai vu ce verset, j'ai même rigolé. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un message subliminal que Paul me donne en me donnant ce texte ? Est-ce que je dois apprendre à se porter les uns les autres aussi ? J'étais honnêtement un peu gêné par ce verset. Et je me suis dit, pourquoi Paul demande aux membres de l'Église à se supporter ? Est-ce que l'Église n'est pas déjà parfaite ? Notre nouvelle identité en Jésus ne suffit-elle pas pour se supporter les uns les autres sans effort ? Malgré toutes mes questions, j'ai réalisé que les paroles de Paul ont résonné chez moi, et je pense que ces mêmes paroles peuvent résonner chez nous aussi. Si nous sommes honnêtes avec nous, vivre dans une si grande famille n'est pas toujours rose. Peut-être certains d'entre nous avons déjà eu besoin de se supporter les uns les autres. En tout cas, Paul a mis un doigt sur une réalité de l'Église. Nos relations entre nous ressemblent parfois plus à des rapides d'eau vive qu'un long fleuve tranquille. Et c'est ainsi qu'il nous invite à laisser notre union en Christ transformer nos relations humaines autant que notre relation avec Dieu lui-même. Avant de partager trois clés que je pense que Paul nous donne pour vivre ensemble, j'aimerais bien voir avec vous qu'est-ce que ça veut dire se supporter les uns les autres. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Je pense que nous serions sûrement menteurs si nous affirmions qu'on n'avait jamais eu des différends avec quelqu'un. Que ce soit au travail, dans un club de sport ou dans notre vie quotidienne, il arrive que certaines personnes nous provoquent, voire nous agacent. Et dans ces moments, nous décidons parfois de prendre sur nous, de faire face et de subir en silence. Pourtant, dans ce texte, il ne s'agit pas de se supporter les uns les autres de manière passive, Il s'agit plutôt de tolérer, d'endurer et de coexister malgré nos désaccords. Paul nous appelle à vivre de manière à ce qu'on puisse se réconcilier ensemble. Et c'est pourquoi, dans la deuxième partie de ce verset 13, il nous invite à nous pardonner les uns les autres. Se supporter les uns les autres, c'est donc reconnaître que la vie communautaire n'est pas toujours facile. Elle est peut-être parfois compliquée, même au sein de l'Église. Pourtant, Paul nous exhorte à être actifs et intentionnels dans nos relations. Et j'aime bien l'histoire du salut, je trouve que ça nous montre un peu comment nous, on devrait nous supporter les uns les autres. Par amour, Dieu le Père a voulu nous réconcilier avec lui. Et il n'a pas attendu à ce que nous, on vient lui demander pardon. Non, il a pris l'initiative et il a envoyé son propre Fils pour nous pardonner. Donc si nous pouvons imiter Dieu, juste ne serait-ce qu'un petit peu, alors au lieu de subir nos relations fraternelles, parfois tendues, engageons-nous de manière volontaire. Prenons l'initiative d'une démarche de paix en prenant le chemin du pardon. Se supporter les uns les autres, c'est refuser que nos blessures et nos trahisons aient le dernier mot. C'est choisir la réconciliation comme Christ l'a fait avec nous. Donc il me semble que dans les versets qui suivent, Paul nous donne trois clés pour apprendre à nous supporter les uns les autres de manière active et pour vivre notre union ensemble de manière saine. Supportons-nous les uns les autres d'abord avec la paix de Dieu, puis avec la parole de Dieu, et finalement en imitant Christ lui-même. Donc, supportons-nous avec la paix de Dieu, de Christ. Dans un monde tellement divisé, où la paix ne règne plus, et les points de vue sont soit d'un extrême, soit de l'autre, l'Église est appelée de vivre comme exemple de paix et d'unité. Et c'est Christ lui-même qui incarne la véritable paix. Paul nous dit en Colossiens 1:20 que c'est par lui qu'il a fait la paix par le sang à la croix. C'est ainsi que nous sommes réconciliés avec Dieu lui-même. Et en prenant notre place à la croix, Jésus nous donne la paix avec Dieu. Cette paix est comme une main solide et sûre qui ne se retire pas. Nous sommes liés avec Dieu par elle de manière permanente. Ce que Paul demande aux Colossiens, c'est de vivre conformément aux choix qu'ils ont faits auparavant. Donc oui, nous avons choisi d'être disciples de Jésus, de nous revêtir avec les nouveaux habits, d'être une nouvelle identité en lui. Nous avons choisi de faire partie de ce seul corps. Mais pour Paul, si nous avons la même identité en Jésus-Christ, nous sommes un avec lui, alors cette paix qu'il nous donne avec Dieu doit ainsi être le moteur de notre unité. Paul nous dit qu'elle doit même régner en nos cœurs, elle doit gouverner nos décisions. La paix que nous avons reçue de Dieu doit désormais nous pousser à bâtir la paix entre nous-mêmes. Si Christ est notre socle et notre fondement, alors sa paix est notre stabilité. Et si nous choisissons la paix avec Dieu, alors nous sommes appelés à vivre en paix entre nous. Dieu nous appelle à être un seul corps, en vue de la paix. Point. Il nous appelle à être un, pas deux, pas trois, pas quatre. Un corps, non seulement lié, mais presque fusionné. Cela veut dire que nos différences, nos frictions, nos affinités ne doivent pas nous diviser. Au contraire, l'unité dans l'Église peut se retrouver au milieu de la diversité. Et bien que je le dise un peu trop souvent, mon Église, ce n'est pas mon Église. Ça n'existe pas. C'est l'Église de Jésus-Christ. Ainsi, si elle n'est pas conforme à ce que moi j'aime, elle peut toujours être son Église. Car c'est lui qui l'a instaurée, c'est lui qui l'a fondée. Mais quel défi! Qu'est-ce que l'Église? Est-ce que c'est la bonne prédication? La bonne louange, la louange des qualités? Les prières qui durent 5 secondes ou 5 minutes? Est-ce que c'est l'agape à la fin du culte? Est-ce que c'est le moment de voir des bons amis? Toutes ces questions, je trouve, sont importantes et valables, mais le verset 13 nous montre que la division entre nous n'est pas une option. Alors, j'ai demandé à Jérémie hier si je pouvais le citer. Hier, Jérémie a sorti un chant. Alors, je pense que c'est toi, mais peut-être il y a d'autres personnes qui t'ont aidé. Il a sorti un chant. Et si vous avez l'occasion, je vous invite à l'écouter. Parce que son message est vraiment profond. Et à la toute fin, il a laissé une petite note qui nous rappelle que notre union en Christ est plus forte que nos différences. Et il dit ceci. La disparité de nos vies n'empêche pas Dieu de venir régner en chacun de nous. La disparité de nos vies n'empêche pas Dieu de venir régner en chacun de nous. Donc la division n'étant pas une option, Paul nous invite à travailler cette paix et la laisser régner dans nos cœurs. Donc dans ma version, je vous ai dit que j'ai pris une version qui n'est pas très très littérale. Il est écrit que la paix du Christ gouverne vos décisions. Mais dans d'autres versions, il est écrit que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Ce mot « gouverner » ou « régner » veut aussi dire « décider », « contrôler ». Mais il veut surtout dire « arbitrer ». La paix du Christ, donc toi, arbitrer notre vie personnelle et notre vie relationnelle et communautaire entre nous. J'ai appris que quelqu'un dans l'église, ou plusieurs d'entre vous, vous aimez le rugby. Alors, moi aussi, je suis très très fan, et surtout fan de tournois des Six Nations. Alors, quand la France et l'Écosse se battent, moi et mon beau-père, voilà, vous pouvez imaginer les tensions, les frictions. Bon, pendant ces matchs-là, moi j'espère que l'arbitre va bien gouverner le match. Qui va être juste. J'espère aussi que l'Écosse va gagner, mais ça arrive pas très souvent. Mais si nous enlevons l'arbitre du match, qui vérifia que les Écossais ne trichent pas? Ou qui jugera de manière juste? De la même manière, si nous n'avons pas la paix du Christ au plus profond de nous-mêmes, au centre de notre être, ou comme Paul le dit, dans nos cœurs, alors l'Église peut cesser de rayonner et arrêter d'être un exemple, un témoignage dans notre quartier, et peut même devenir un contre-exemple. Et j'aimerais partager avec vous une conversation que j'ai eue avec mes grands-parents l'année dernière. Ils ne sont pas chrétiens. Ils m'ont parlé d'une église dans leur ville et ils m'ont dit qu'elle ne donnait pas envie, à cause des querelles et des désaccords. Cela m'a frappé, vraiment. Si nous ne vivons pas en paix entre nous, ça va se voir. Le thème de notre week-end d'église, c'était que l'amour de Christ puisse être avec les uns les autres et que cela puisse être un témoignage dans notre communauté. C'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Que le Saint-Esprit nous aide à manifester cette même paix entre nous et parmi nous. Et que la paix qui réside dans nos cœurs puisse nous aider à nous supporter les uns et les autres. Supportons-nous par la paix de Christ et maintenant par la parole de Dieu. Le verset 16 dit que la parole de Dieu réside au milieu de vous. Elle est notre repère pour discerner la volonté de Dieu dans notre vie. Et un peu plus loin, dans ce même verset, il dit « Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. » Le verset 16 nous indique que la parole de Dieu est le catalyseur qui nous pousse à nous instruire et nous avertir les uns les autres. En effet, le contexte de l'église de Colosse nous révèle qu'à leur époque, il y avait des faux enseignants dans l'église. Ils prêchaient que Jésus était inférieur de Dieu. Et donc Paul réaffirme la divinité de Jésus plus tôt dans le chapitre. Il dit que Jésus est l'image de Dieu invisible. Et c'est pour cela que Paul leur dit, attention, avertissez-vous, instruisez-vous. Ne laissez pas ces faux enseignants prêcher s'ils ne croient pas réellement en Christ. Il leur dit de faire attention aux loups dans la bergerie. Il en est de même pour nous, bien sûr. Par contre, Paul nous invite à la faire avec sagesse. Combien de fois nous reprenons un frère ou une sœur un peu trop rapidement, ou peut-être face à une situation grave, au lieu de les instruire, les avertir, nous avons décidé de rien dire, de garder notre bouche fermée. Et j'aimerais m'attarder sur ce dernier point. La sagesse de Dieu doit nous aider à agir d'une façon qui plaît à Dieu. J'ai appris en français, on dit « qui vole un œuf, vole un bœuf ». Il me semble que notre texte nous incite à avertir celui qui vole un œuf pour qu'il n'aille pas jusqu'à voler un bœuf. La parole du Christ est notre outil pour savoir comment avertir, reprendre ou dissuader quelqu'un. Dissuader quelqu'un qui fait du mal. L'apôtre Paul n'a pas eu du mal à dire des choses telles qu'elles sont. Lorsqu'il voyait une dérive, il l'a signalé clairement afin de protéger le peuple de Dieu et le témoignage de l'Église. Et ici encore, il aborde un sujet difficile. La parole de Dieu nous aide à nous supporter les uns les autres, mais elle ne nous dit pas de supporter tout et de tolérer tout. De même que Dieu ne tolère pas le péché, nous sommes appelés à rester vigilants face à ceux qui prétendent prêcher Dieu sans réellement le connaître. Parfois, la parole de Dieu exprime avec clarté ce que nous n'osons même pas dire nous-mêmes. Mais dans notre société aujourd'hui, il me semble que nous avons du mal à dire la vérité avec franchise. Il nous arrive de tourner autour du pot par peur de paraître insensible ou de blesser quelqu'un. Je pense à ce qui se passe ces dernières années dans nos églises. Je ne parle pas forcément de celle-ci, mais dans les églises en France comme ailleurs. La vie des pasteurs, des prêtres ou des membres qui détruisent le témoignage de l'Église et détruisent les vies des victimes aussi. D'où l'importance de s'instruire et s'avertir les uns les autres, même si cela nous fait mal à l'aise. Paul nous invite à reprendre un frère ou une sœur avec amour. C'est ainsi que nous protégeons la personne en face, mais surtout le nom de Jésus-Christ. Trop souvent, ces personnes-là se croient intouchables et elles sont souvent remplies d'orgueil et elles peuvent même aller à se convaincre que ce qu'elles ne font n'est pas mauvais. Et ces personnes-là sont entièrement responsables pour ce qu'elles font, mais Dieu nous appelle à les avertir, surtout si nous savons ce qu'elles font n'est pas juste aux yeux de Dieu. Et j'aimerais bien dire quelque chose. Parfois, la loi française nous oblige. Ce n'est pas juste ce que la parole de Dieu dit. Parfois, la loi française nous oblige de dire des choses comme elles sont. Je sais, je vois pas qui a dit ça, mais voilà, oui, exactement. Que le Saint-Esprit nous aide à trouver ces bons mots pour ne pas blesser notre prochain, mais pour parler à son cœur, afin qu'il désire davantage ressembler à Christ. Qu'il nous apprenne à avertir ou instruire avec amour et sans jugement. Et qu'il nous donne le courage d'intervenir même lorsque le sujet est sensible ou délicat. Supportons-nous les uns les autres avec la parole de Dieu parce qu'il nous conduit dans la vérité et la volonté de Dieu pour notre vie. Je passe aux dernières clés essentielles qui me semble que Paul nous donne. C'est supportons-nous les uns les autres en imitant Christ, en utilisant Christ comme notre exemple premier. Dans le verset 17, il dit « Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites tout, agissez au nom du Seigneur Jésus. » Ce verset nous montre clairement que ce n'est pas une simple suggestion, mais c'est un ordre. Un appel à l'obéissance. Facile à dire, difficile à faire. Comme l'indiquent les versets 5 et 7 de notre chapitre, nous ne vivons plus dans le péché. Nous avons choisi de revêtir une nouvelle nature, une vie tournée vers Jésus et non plus centrée sur nous-mêmes. Si nous voulons vraiment et réellement nous supporter les uns les autres, il s'agit d'utiliser Christ comme notre exemple. Et dans le verset 13, nous apprenons que si nous pouvons nous supporter les uns les autres, c'est car Christ nous a pardonnés, et donc nous sommes appelés à pardonner aussi. Si Christ nous a pardonnés, qui sommes-nous pour ne pas pardonner notre prochain? Mais j'en dis pas plus sur le pardon, parce que Paul il va prêcher sur ce sujet bientôt. Mais c'est vrai qu'il est un sujet quand même essentiel pour vivre ensemble. Mais c'est pour ça qu'on va consacrer toute une prédication sur ça. Dans le verset 12, l'apôtre Paul liste plusieurs qualités essentielles pour vivre des relations saines. La bonté, la bienveillance, l'humilité, la douceur et la patience. Et toutes ces qualités se trouvent pleinement en Jésus-Christ lui-même. Sa bonté dans le regard qu'il pose sur chacun de nous. Sa bienveillance inconditionnelle dans notre famille. Son humilité lorsqu'il s'est dépouillé lui-même à la croix, prenant notre place. Sa douceur dans la manière dont il reprend ses disciples et nous aussi. Et sa patience envers nous, alors que nous écartions si souvent de sa voix. La parole de Dieu nous présente le modèle parfait. Jésus-Christ est à la fois notre roi et notre exemple. Donc nous sommes appelés à le suivre et à l'imiter dans tout ce que nous faisons. Et son exemple est notre aspiration première, celle de vivre une vie sans dérèglement et une vie qui honore Dieu. Encore une fois, Paul nous appelle à l'unité. Agir au nom de Jésus-Christ, c'est vivre en se demandant constamment, est-ce que cela honore Christ? Est-ce qu'il validerait mes paroles et mes actes? Et cela nous interpelle. Dans quelle sphère dans notre vie avons-nous besoin de ressembler plus à Christ? Est-ce dans notre bienveillance envers nos frères et sœurs dans notre Église? Est-ce que c'est notre humilité de reconnaître que mon frère, ma sœur peut m'instruire, peut m'avertir? Est-ce que c'est dans notre patience envers ceux qui nous entourent? Le fait d'agir au nom de Jésus nous met en garde Surtout quand nous n'arrivons plus à supporter quelqu'un. Car Jésus lui-même trouverait la paix avec son frère ou sa sœur. Et il les pardonnerait aussi. Paul ajoute enfin, rendons grâce par lui à Dieu le Père. Il nous rappelle que Jésus est notre seul médiateur entre nous et Dieu. Il est le socle de notre communauté. Et donc, si nous l'oublions, notre foi n'a aucun fondement. Si nous refusons de croire en lui, nous n'avons pas de salut. Et si nous réduisons Jésus à un simple bon exemple, nous oublions qu'il est celui qui nous a donné la vie. Notre assemblée reste unie et nous arrivons à nous supporter puisque Jésus demeure notre pilier, notre fondement et notre centre. J'arrive à la conclusion et peut-être vous avez remarqué que je n'ai pas mentionné le verset 14. Mais j'aimerais m'y arrêter quelques instants. Car je crois que ce verset résume parfaitement ce que Paul est en train de dire. Par-dessous tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Autrement dit, supportons-nous les uns les autres par la paix du Christ, par la parole de Dieu et en imitant Christ lui-même. Même par-dessous tout cela, que notre vie soit revêtue de l'amour de Dieu. Il n'est tout simplement pas possible de se supporter les uns les autres sans cet amour. Nous ne pouvons pas vivre en paix les uns les autres, ni marcher selon la parole de Dieu, ni imiter le Seigneur Jésus de manière sincère sans son amour. Demandons donc à Dieu de nous remplir à nouveau, qu'il nous remplisse avec son amour, à la fois pour lui et pour nous les uns les autres, afin que notre unité, notre témoignage puisse rayonner dans notre quartier à Nîmes, pourquoi pas dans le monde. Je vous invite à la prière. Supportez-vous les uns les autres. Seigneur, quand tu as donné ces paroles à Paul il y a 2000 ans, tu lui as donné le courage pour l'écrire. Et je prie que tu puisses nous aider, Seigneur, par ta paix, par ta parole, par ton exemple en ton Fils Jésus-Christ, que tu puisses nous aider à venir à notre secours pour pouvoir supporter les uns les autres. Seigneur, c'est une phrase un peu étonnante. Pourquoi on devrait faire cela dans notre Église? Mais je te prie de nous aider, de vraiment nous apprendre par ton Saint-Esprit de vivre en harmonie les uns les autres, afin que ton Église puisse être un témoignage. Seigneur, je prie pour celles et ceux qui ont du mal à supporter d'autres dans cette assemblée. Que tu puisses leur donner des paroles pour parler avec leurs frères ou sœurs. Qu'ils puissent avoir des paroles de sagesse et remplies de ton amour. Que tu puisses nous aider à retrouver cette paix entre nous, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Rapidement, avant de redonner le micro à Fred, la semaine dernière, on avait un intervenant, il s'appelait Charles, il a prêché sur la fin de temps et le besoin de donner notre vie au Seigneur et de même prêcher la bonne nouvelle à d'autres personnes. Et il a invité des personnes à lever leurs mains si elles voulaient donner leur vie au Seigneur. Et il a invité le reste de nous de fermer nos yeux. Du coup, j'ai fermé mes yeux, mais je ne vous ai pas vu. Et ce que je voulais vous dire, c'est que Paul, notre pasteur principal, et moi, nous sommes prêts à vous accueillir si vous voulez et prier pour vous et cheminer avec vous dans ce pas de foi que vous avez fait. Il est important et nous croyons que quand même on est là en tant qu'église, en tant qu'assemblée pour à la fois se supporter les uns les autres, mais aussi soutenir les uns les autres. Donc n'hésitez pas, si vous avez levé votre main la semaine dernière, venez me voir, Paul n'est pas là aujourd'hui, il intervient dans une autre église. Et si vous ne voulez pas venir me voir, allez-y, parlez avec quelqu'un pour qu'on puisse prier pour vous. C'est quand même une sacrée décision que vous avez décidé de prendre. Voilà.